Alors, je présente maintenant nos deux conférenciers, parce que je ne réinterviendrai pas entre les deux présentations. Je reviendrai pour les questions. Le premier qui va nous parler, c'est Jean-Claude Veil, qui est né en 1941, qui est professeur d'immunologie à la faculté de médecine Necker enfants malades de l'université Paris 5 René Descartes, celle même où ils interviennent ce soir. Il a été attaché de recherche à l'INSERM de 76 à 87, chercheur à l'Institut Jacques Monod 82-87, membre permanent de l'Institut d'immunologie de Bâle de 87 à 91, et depuis 1992, il est professeur d'immunologie à la faculté de médecine Necker et membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste d'immunologie et de développement. Il a travaillé sur la diversité des anticorps et l'ontogénèse des cellules B. Donc voilà pour Jean-Claude Veil. Maintenant, plus près de moi, Miroslav Radman, qui est né en 1944. Il est lui aussi professeur de biologie cellulaire à l'Université Paris 5, directeur de l'unité génétique moléculaire, évolutive et médicale de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Il est docteur en sciences. De 73 à 83, il a été professeur à l'Université libre de Bruxelles. De 83 à 98, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Jacques Monod. Et depuis 1998, il est professeur à la faculté de médecine Necker enfants malades, Université Paris 5, en biologie moléculaire. Il a consacre ses travaux à la réparation de l'ADN, à ses mécanismes moléculaires et à son rôle dans l'apparition des cancers et dans l'évolution des espèces. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps à Jean-Claude Veil, puis Miroslav Radman suivra, et ensuite, je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui se poseront et que le débat sera extrêmement nourri. Voilà, merci.
Est-ce que ça marche? Oui. Évidemment, toute mon admiration à Yves Michaud et à son équipe pour cette magnifique histoire de l'Université de Tolé-Savoie. Et si vous permettez, je vais vous montrer un extrait d'un film pendant 2 minutes. On va éteindre les lumières avant de commencer ma conférence, mais cet extrait résume ma conférence.
Monsieur Tailleul, j'ai amené un ami.
Je suis étonné que vous ne soyez pas venu plus tôt.
Ce n'est pas facile de rencontrer son créateur.
Et que veut-il faire pour vous ?
Le créateur peut-il réparer ce qu'il a fait ?
Est-ce que vous souhaitez être modifié ?
Reste ici. J'avais à l'esprit quelque chose de plus radical.
Quoi ? Qu'est-ce qui vous pose un problème ?
La mort.
La mort ? Mais j'ai bien peur que ce soit en dehors de ma juridiction.
Je veux plus de vie, père.
La complexité de la vie. La moindre altération dans l'évolution d'un système organique vivant est fatale. Un code génétique ne peut pas être corrigé une fois qu'il a été établi.
Pourquoi ?
Eh bien parce que le second jour d'incubation, toute cellule qui a subi la moindre réversion ou mutation engendre un groupe de cellules qui reviennent à leur type primitif, comme des rats quittant le navire. Alors le navire coule.
Vous pouvez essayer de restructurer le MS.
Nous avons déjà essayé. L'éthylméthane sulfaomate est un agent alkylin et un puissant mutagène. Il crée un virus si mortel que le sujet meurt avant de quitter la table d'opération.
Alors une protéine très concentrée, qui bloque les cellules reproductrices,
n'empêcherait pas la reproduction, mais elle engendre une erreur génétique dans la réplication. Et ainsi, nous nous trouvons en présence d'un DNA qui a subi une mutation qui crée à nouveau un virus. Mais Tout cela est un peu abstrait. Nous vous avons fait aussi bien que nous pouvions.
Mais pas pour durer.
Chaque fois qu'une lumière brûle deux fois plus, elle brûle deux fois moins longtemps. Et vous avez brûlé, on ne peut plus brillamment, Roy. Regardez-vous. Vous êtes le fils prodigue. Vous êtes une belle récompense.
C'est dommage, on verrait bien le film en entier. Oui. Ma conférence va être très en dessous du film. Vous avez reconnu, c'est Blade Runner, le film de Ridley Scott qui a été fait en 1982. Et la raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est parce que ça résume un peu, en fait, ma conférence. C'est-à-dire que vous avez vu ce que lui dit. C'est un réplicant, un androïde qui a été fabriqué par son créateur. Et le réplicant vient voir son maître, son créateur, et lui dit « Je voudrais vivre plus longtemps ». Et le créateur lui répond « Oui, mais étant donné les performances que vous avez acquises, moi j'ai choisi les performances au détriment de la longévité, de la durée. On ne pouvait pas avoir les performances et la longévité. » Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de l'évolution et des choix qu'a fait l'évolution, les performances au détriment de la longévité. Alors si vous permettez, je vais commencer par quelques définitions pour vous amener dans le sujet. Le plan de la conférence de 30 minutes avant celle de Miro, ça va être de vous donner quelques définitions et à partir de ces définitions, vous montrer quelle était l'hypothèse que j'ai formulée, la manip qui a été faite par une équipe espagnole qui travaille en cancérologie. Comme vous l'avez vu avec Yves, je suis plutôt immunologiste. Et les conséquences de la manip et la discussion derrière. Donc, la première diapo, alors est-ce que je vais retrouver ma flèche ? Oui. Vous montre une phrase de Léonard de Vinci qui dit « L'ingéniosité humaine peut faire toutes sortes d'inventions, mais elle n'en concevra jamais de plus belle, plus simple, plus adaptée que celle faite par la nature. Parce que dans les inventions de cette dernière, rien ne manque et rien n'est superflu. » Et c'est vrai, quand on regarde la nature, on est fasciné par la beauté. Et en même temps, je vais essayer de vous montrer que ce constat n'est peut-être pas tout à fait exact. Et qu'il y a peut-être une autre façon de regarder la nature. On peut l'admirer, mais on peut aussi trouver que pour certaines choses, elle est peut-être imparfaite. Alors, les définitions qui vont aller dans le sens de Léonard sur la beauté de la nature, on a dans chacune de nos cellules, on a 23 paires de chromosomes, le chromosome de la mère et du père. En tout, il y a 25 à 30 000 gènes dans le noyau de chacune de nos cellules et on a à peu près 10 milliards de cellules. Chaque gène est présent en deux copies, il est présent sur le chromosome maternel et paternel et un gène est une série de nucléotides et tous les chromosomes ensemble, ça représente 2 à 3 milliards de nucléotides. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le karyotype, quand on regarde le noyau d'une cellule en métaphase, et on voit le chromosome 2, maternel et paternel, le chromosome 1, et de fait, on a 22 paires de chromosomes, ainsi que le X et le Y, suivant le sexe. Et dans certaines translocations, dans certains cancers dont je vais parler, il y a ce qu'on appelle les translocations chromosomiques, avec des segments d'un chromosome qui se fracturent ici et qui vont venir se souder à un autre chromosome, et ça peut créer une dérégulation, une croissance dérégulée et une situation maligne. Alors, dans chaque cellule, comme je vous l'ai dit, il y a 23 paires de chromosomes, et alors, pour chaque cellule, dans chaque tissu, les 25 à 30 000 gènes ne sont pas exprimés en même temps. On appelle ça la différenciation, c'est-à-dire que dans un tissu donné, un certain nombre de gènes sont exprimés qui caractérisent ce tissu. Là, je vous montre deux chromosomes différents, c'est pas deux allèles père-mère, deux chromosomes différents, où de fait, il y a deux gènes d'exprimés, et les autres gènes qui sont présents sont réprimés, ils ne sont pas exprimés. Ce sont deux chromosomes différents avec deux unités de transcription, deux gènes actifs pour cette cellule. Alors, je vais pas vous ennuyer trop longtemps, mais c'est pour vous amener à la manip que je vous raconte tout ça. Donc ça, c'est l'ADN, c'est ces fameux nucléotides, ces 3 milliards de nucléotides qu'on a, qui sont faits de 3 types, 4 types de nucléotides, AGTC, et qui sont qui est le codage de qui est inscrit dans l'ADN. Cet ADN va être transcrit pour donner une autre structure nucléotidique qu'on appelle l'ARN messager, qui lui va être traduit pour donner les protéines. Donc là on est en nucléotides, là on est en protéines. Les protéines, c'est l'identité de tous nos tissus. Donc quand on est dans chaque cellule, on a donc ce noyau avec ses 23 paires de chromosomes, l'ADN, des gènes spécifiques de cette cellule et de ce tissu qui sont transcrits, qui donnent une protéine, et cette protéine qui marche l'identité du tissu. Et pour résumer, ma fille m'a dit ce matin de ne pas parler trop vite, donc il faut que je fasse attention, ce sont les protéines qui définissent nos tissus. Le gène de la myosine est exprimé dans les muscles, la protéine myosine va donc être produite dans ce tissu. Le gène exprimé dans les muscles, la protéine myosine marque l'identité du tissu musculaire. Les immunoglobulines, qui font l'objet de mon travail, sont produites dans les globules blancs. Le gène des immunoglobulines va être exprimé et une protéine immunoglobuline va être produite. Bon, on avance. Bon, l'autre concept dont je voulais parler, c'est celui de la sélection naturelle, qui est lié à l'extrait que vous avez vu de Blade Runner. Et j'ai pas regardé maintenant. Bon, et pour vous l'expliquer simplement, évidemment, ça déduit des observations de Darwin, et c'est une des interprétations de la sélection naturelle, parce qu'évidemment, les évolutionnistes se disputent sur différents aspects de la théorie de Darwin et différentes modifications qu'on peut y apporter. Mais pour faire simple, si dans une île, par exemple, qui a été dessinée ici, il y a deux types d'individus. Un individu avec une reproduction lente, mais qui vit très longtemps, qui vit jusqu'à 110 ans. Un individu très robuste. Et un individu avec une reproduction rapide, mais lui, il meurt à 55 ans. Donc on se retrouve sur cette île avec ces deux types d'individus, et évidemment, un espace et des ressources limitées. Qu'est-ce qui va se passer ? Après 55 ans, cet individu va s'être reproduit plus vite que l'autre. Ça va d'ailleurs trop vite même. Après 55 ans, ça commence à se reproduire. Après 110 ans, ça continue. Et après 200 ans, cet individu qui meurt à 55 ans a rempli tout l'espace. Le fait est que vont survivre les individus ayant mis l'accent sur la robustesse avant et pendant l'âge de la reproduction, négligeant ainsi ce qui peut se passer après. Que ces individus meurent après 55 ans, ça n'a pas d'importance dans la mesure où ils vont se reproduire plus vite. C'est donc jusqu'à la période de la reproduction que tous les efforts vont être faits au niveau de la robustesse. L'évolution n'est donc pas concernée par ce qui peut arriver aux individus après 45-55 ans, type cancer, maladie neurogénérative. Là, c'est ce que racontait le créateur aux réplicants. On ne pouvait pas en même temps investir sur la reproduction, sur cette première durée de vie et sur la longévité. Donc, à partir de ce constat, qui est un constat général, qui fait presque partie de la sagesse des nations aujourd'hui, je vais vous introduire un dernier concept, ce qu'on appelle les gardiens du génome. Alors, ça devient un peu compliqué, mais vous verrez, ça n'est pas tellement. Il y a des gènes, parmi ces 25 ou 30 000 gènes, qu'on a dans notre génome, dans notre DNA, sur l'allèle maternel et paternel, qui s'appellent P53, rétinoblastome, P14 et P16. Ces quatre gènes-là sont impliqués dans 100% des cancers chez l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cancer chez l'homme où un de ces gènes-là n'est pas inactivé par mutation sur les deux chromosomes. C'est-à-dire qu'il y a un de ces gènes-là qui est totalement inactivé. Et de fait, par exemple, le gène P53, dans plus de la moitié des cancers chez l'homme, ce gène est inactivé sur les deux chromosomes. On n'a plus de P53 quand on arrive à un cancer. Alors pourquoi ces gènes sont les gardiens du génome, ils sont impliqués dans la surveillance cellulaire. Ils sont activés en cas d'agression de l'ADN. Donc ils sont là pour regarder ce qui se passe sur ces 23 chromosomes. Si la cellule subit une irradiation, des ultraviolets, ou l'agression par un mutagène, la nicotine, un colorant, une infection virale, ils arrêtent, ils ont des moyens de dire à la cellule, maintenant tu ne peux plus te diviser, ils arrêtent la prolifération cellulaire, afin que la cellule ait le temps de réparer son ADN. Donc, il donne un temps de réparation. Et si ce temps de réparation terminé, la cellule n'a pas réussi à réparer, n'a pas réussi à rendre à nouveau son ADN intact, il l'envoie à la mort. Il déclenche la mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire que cette cellule disparaît. Donc, ça ne peut pas aller plus loin. Et vous comprendrez bien que quand ces gènes ne fonctionnent pas, eh bien, la cellule peut continuer à proliférer en ayant fait des mutations, en ayant subi ce type d'agression, et c'est ce type de prolifération où elle va accumuler d'autres modifications génétiques, puisque les gardiens ne sont plus là, qui vont amener à la progression tumorale. Alors, pour vous donner un exemple, c'est qui a été publié ce mois-ci, au mois de mars, dans PNAS, qui donne la description précise. On sait maintenant comment se passe le cancer du côlon, le cancer le plus fréquent chez l'homme. Alors, ce cancer, comme tous les cancers, est le résultat d'une cascade d'altérations génétiques induisant des vagues de prolifération cellulaire non contrôlées, c'est ce que je vous ai dit. À partir du moment où ces gènes de contrôle de la cellule sont mutés, la cellule n'est plus contrôlée. Pour aller d'une tumeur bénigne à une tumeur maligne, on estime à peu près 17 ans pour un cancer du côlon. Alors, on commence sur un tissu normal, par une mutation sur un de ces gènes de contrôle, puis une deuxième, une troisième, on pense qu'il faut environ 7 mutations pour arriver à un cancer. Mais à un moment donné, quand on est au stade de l'adénome, qu'on n'est pas encore au carcinome, on n'est pas encore à la tumeur maligne, ici, là, ce gène P53 est muté sur les deux allèles. Il est inactivé sur les deux allèles. Alors, comment ça se passe? Ça se passe par tout un mécanisme de prolifération cellulaire ici, d'altération génétique ici qui commence déjà à altérer les mécanismes de réparation, qui fait que, au cinquième événement, le gardien du génome qui normalement devrait dire à la cellule, là ça suffit, l'ADN est très endommagé, ou vous réparez, ou je vous envoie à la mort, donc j'arrête la progression tumorale bénigne. Non, ce gène est muté sur les deux allèles. Est-ce qu'il est muté par une agression endogène ou par une agression extérieure? Une fois qu'il est muté, là, on a encore une mutation et on part sur le carcinome. Et ces chercheurs estiment qu'entre le carcinome et la métastase, il faut à peu près 2 ans. Donc 19 ans pour avoir une tumeur du côlon métastatique. Donc vous voyez que ce gardien du génome-là, il est là pour arrêter... il est là pour alerter les désastres avant l'installation de la tumeur. Alors, comme je vous l'ai dit, la voie P53 est inactivée dans de nombreux cancers chez l'homme. 50% des cancers ont une mutation qui active les deux gènes, donc le gène maternel et paternel, sont inactivés. Ils ne fonctionnent plus dans 50% des cancers chez l'homme. Il n'y a plus d'arrêt de la prolifération en cas d'agression de l'ADN, et la cellule peut se diviser à l'infini en accumulant d'autres mutations. La cellule devient immortelle, puis cancéreuse. Elle n'est plus contrôlée. Alors, ça, c'est une statistique du monde occidental, mais qui est acceptée par tout le monde. Le pic du cancer chez l'homme et chez la femme est entre 60 et 70 ans, comme vous le voyez, avec une pente plus élevée chez l'homme. C'est la moyenne occidentale. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là on commence la manip, on commence l'hypothèse, le raisonnement, c'est qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Lee-Fromeny, qui est le nom des deux chercheurs, l'un s'appelant Lee et l'autre Fromeny. Et ils sont aperçus qu'il y avait des enfants qui naissaient qu'avec un seul gène P53. Ils héritaient que d'un seul gène, c'est-à-dire que les parents leur avaient légué deux gènes P53, dont un qui était inactif et muté. Or, qu'est-ce qui se passait chez ces enfants? Évidemment, ça s'est fait dans l'autre sens. Ils sont aperçus qu'il y avait des enfants qui avaient des cancers avant 20 ans. 30% des cancers chez ces enfants arrivés avant 20 ans, 36% des cancers entre 30 et 50 ans. Donc on était très en avance par rapport aux statistiques connues. Et évidemment, ils se sont aperçus, ayant vu ces enfants avec ces cancers très, très précoces, ils se sont aperçus que ces enfants avaient qu'un seul gène P53, pas dans la tumeur, dans le corps entier. C'est-à-dire qu'ils héritaient d'un seul gène P53. Et après, dans la tumeur, ils n'en avaient plus qu'un à faire muter pour arriver à avoir une cellule précancéreuse qui avait muté ces deux gènes. Donc, ils avaient une prédisposition au cancer, puisqu'il faut inactiver les deux gènes pour faire la cellule tumorale. Eux, ils en avaient déjà inactivé un à la naissance dans toutes les cellules. Et c'est pour ça que quand on voit, je vous ai épargné ça, on voit la liste des cancers, ils font toutes sortes de cancers, ces enfants. Ils en font même 2-3 en même temps dans différents tissus. Donc c'est une catastrophe pour ces enfants. Et c'est là où j'ai formulé cette hypothèse qui était naïve, mais qui était l'hypothèse que vous auriez pu formuler aussi avec ces mêmes connaissances. Avec un gène P53, ces enfants ont un cancer à 25 ans. Avec deux gènes P53 à la naissance, nous avons des cancers à 60 ans. Et je me posais la question, est-ce qu'avec 3 ou 4 gènes P53, pourquoi on n'aurait pas un cancer à 100 ou 120 ans? Et est-ce qu'il y aurait des effets négatifs? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la nature ne nous a pas dotés de 4 gènes P53 afin de nous protéger contre le cancer à 60 ans? Alors, posé en termes scientifiques, la manip, c'était: peut-on penser que l'évolution n'avait aucune raison de sélectionner pour un gène P53 supplémentaire, pouvant, il manque un O là, pouvant nous protéger après l'âge de la reproduction? À nouveau, quel est l'intérêt de la reproduction, quel est l'intérêt de l'évolution de travailler sur nous après l'âge de la reproduction? Aucun. Une fois que nous sommes reproduits, nous avons réglé notre compte avec l'espèce, comme disait François Jacob, nous sommes bons pour aller à la casse. Donc, n'étant pas chercheur en cancérologie, comme je vous l'ai dit, mais en immunologie, j'étais à Madrid pour faire une conférence, et il y avait là un jeune chercheur très talentueux, Manuel Serrano, qui est spécialiste du cancer, et à qui je racontais cette idée en lui disant: il faudrait la tester sur la souris. C'est ça que j'ai appelé la manip. Manuel m'a dit: on va construire une souris avec trois gènes P53, le 2, et on va voir comment elle se débrouille si on induit des cancers. Donc on a construit une souris transgénique. Donc on se rapproche du titre de la conférence, c'est pas un homme transgénique. Alors comment on fait pour construire une souris transgénique? On introduit un gène dans un œuf fécondé, un noyau mâle fécondé, c'est-à-dire que c'est un ovule fécondé par un spermatozoïde in vitro, comme on fait dans les fives actuellement, et on injecte l'ADN codant pour la P53, ce morceau d'ADN, qui est un gène d'une certaine taille, qu'on peut isoler, et on peut l'injecter dans le noyau mâle. À partir de ce moment-là, il s'intègre, ce morceau d'ADN qui peut faire 50 ou 100 kilobases, c'est-à-dire 100 000 bases, 100 000 nucléotides, qu'on peut isoler, qu'on peut purifier, c'est des manips de laboratoire classiques. On l'injecte dans ce noyau mâle de l'œuf, de l'ovule fécondé, et puis on réimplante ça dans l'utérus, d'une souris porteuse qui a été stimulée hormonalement, à qui on a fait croire qu'elle était enceinte, en lui injectant des hormones. Donc on lui aurait, vous voyez, là, sur le dessin, cette souris tricote déjà pour sa prochaine grossesse, je ne sais pas si vous le voyez. Mais et on lui, si, il y a une plotte là, on voit, je ne l'avais pas vu, je viens de le voir pour la première fois, il y a une plotte là, c'est joli. On réinjecte ça, on lui réimplante dans l'utérus, et la souris va donner naissance à une progénie qui va contenir un extragène P53. Et Manuel Serrano a appelé ses souris les super P53 mice. Alors quand on regarde les chromosomes, parce que c'est un chercheur sérieux, il a montré qu'il y avait la P53 sur les deux chromosomes maternels et paternels de ses souris, plus un troisième gène P53 qui s'était intégré sur un autre chromosome. De fait, ces souris ont trois gènes P53 au lieu de deux gènes P53. Donc là, on pouvait tester qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce qu'elles vont mourir plus vite? Est-ce qu'elles vont avoir toutes sortes de problèmes? Ou est-ce qu'elles vont résister au cancer? Et les résultats ont été assez jolis, parce que aussi bien les cancers induits, le fibrosarcome que le carcinome, on induit ces cancers en injectant des substances chimiques chez la souris, on avait un retard assez important chez les souris P53 d'apparition du cancer, 16% par rapport à 57% chez les souris témoins. Donc de fait, dans les deux cas, on ralentissait incroyablement l'apparition des cancers induits. Ça va, Biro, tu t'endors pas, non? Non. Alors, résumé de cette super 53 mice, cette souris super 53, la réponse au dommage de l'ADN était améliorée, elle résistait bien aux tumeurs induites et spontanées, et le vieillissement était normal, donc il n'y avait pas de problème. Donc c'était en 2002, il y a déjà assez longtemps, on a publié avec Manuel cet article dans le Humble Journal, et c'était d'ailleurs assez amusant, qui est la revue de référence en Europe. Mais ce qui était assez amusant, c'est qu'on avait essayé de l'envoyer à Nature, à Science, dans les grandes revues, qui ne l'avaient pas pris, qui trouvaient ça un peu trop transgressif. Mais quand on a publié ça, ils ont tous fait, dans chacune de ces revues, ils ont fait un commentaire sur ce résultat. Alors Manuel, comme je vous le disais, Manuel, c'est son métier, la cancérologie, donc il a continué. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé des gardiens du génome, il y avait la P53, le rétinoblastome, et le P14 et le P16. C'était les quatre gardiens. Et la P14 et le P16, sans vous ennuyer trop, sont des gènes qui sont en amont au niveau de la régulation et qui contrôlent le rétinoblastome et le P53. Donc ils contrôlent, eux contrôlent ces deux autres gardiens du génome. Donc de fait, on en avait parlé avec Manuel, il a construit des souris avec trois gènes P14-P16 au lieu de deux. Il a rajouté une copie P14-P16. Et là, à nouveau, il a publié en 2004 dans une jolie revue qui s'appelle Gene and Development, et à nouveau, les souris résistaient mieux au cancer induit et spontané. La plus belle souris, comme je l'ai marqué là, c'est celle qu'il a obtenu en mariant la souris sub-P53 et la souris sub-P14-P16. Donc il a organisé cette rencontre entre ces souris et il a eu une progénie fantastique parce que celle-là était très nettement plus résistante au cancer induit et spontané. Là, on avait augmenté d'un gène les P53 et les 14-16 qui contrôlent les deux autres gènes. Ces souris sont très résistantes. Vous voyez la différence entre la souris ARF, c'est la double souris P53-P14-P16, et une souris normale pour les tumeurs spontanées. Une souris, ça vit à peu près 2 ans. Elle meurt. 50% des souris meurent d'une tumeur, très souvent d'une tumeur lymphoïde. Or, ces souris-là, vous voyez, 50% des souris mouraient. Là, on avait moins de 10% des souris qui faisaient une tumeur après 2 ans. Donc, un résultat assez incroyable. Même chose pour les cancers induits. Ce coup-là, la prestigieuse revue Nature a accepté de publier Manuel Serrano, et c'était en 2007, l'année dernière, parce que le résultat était très spectaculaire. Parce que, à nouveau, on avait montré qu'elles étaient plus résistantes au cancer induit et spontané, et surtout qu'elles vivaient plus longtemps. Et ça, c'était pas dû au fait qu'elles faisaient pas de cancer, c'était dû au fait qu'en plus, le gène P53 additionnel avait un effet antioxydant. Et là, c'est un peu long, parce que dans le papier de Nature, si ça vous intéresse, il y a des manips qui montrent qu'il y a un effet antioxydant de ce gène P53. Donc, non seulement elles échappaient au cancer, mais elles vivaient 20%. 20%, c'est pas mal, si vous calculez sur quelqu'un de 80 ans, ça fait 16 ans. Donc, qu'est-ce que ces expériences montrent ? En modifiant le génome de la souris, on peut retarder l'apparition des cancers et retarder le vieillissement. Alors évidemment, ce qui était très amusant, ce qui est sorti, amusant toujours entre guillemets, c'est des paroles de chercheurs, c'est qu'en Nature, en 2008, il y a quelques mois, il y a un article qui est sorti qui montrait qu'en fait, les enfants atteints de Down syndrome, qui portent une trisomie du chromosome 21, comme vous le savez, qui ont 3 chromosomes 21 au lieu de 2, ces pauvres enfants, sont résistants, très résistants aux tumeurs solides. Et personne ne savait vraiment pourquoi. Ces enfants, qui d'ailleurs arrivent à vieillir tout à fait bien maintenant, sont résistants aux tumeurs solides. Et une équipe de chercheurs a publié dans Nature que, de fait, sur le chromosome 21, il y avait un gardien du génome, qui s'appelait un répresseur de tumeurs, qui s'appelait ETS2, sans vouloir vous ennuyer dans les détails, et que, chez les gens normaux, quand on fait une tumeur de l'intestin, par exemple, on s'aperçoit que ce gène est muté sur les deux allèles. Chez les patients atteints du Down syndrome, les 3 copies de ETS2 induisent, il y a un début de tumeur, il y a le début de l'adénome, vous vous souvenez de ma première diapo sur la progression des tumeurs en 17 ans, l'adénome démarre, mais le fait qu'il y ait 3 copies de ETS2, ça ne progresse pas vers la tumeur. Donc, cette expérience de nature montrait que, de fait, si on avait 3 gènes répresseurs de tumeurs, on pouvait se défendre contre un type de tumeur donné, là, qui est un tumeur de tube digestif. Là où la science est pas aussi jolie et plus compliquée qu'on croit, et les histoires sont pas aussi simples, sinon ça serait pas drôle, c'est qu'une équipe avait montré que ce gène ETS2 était promoteur de tumeurs pour les cancers du sein chez la souris. C'est-à-dire que quand on induisait un cancer du sein chez la souris femelle, le fait de lui enlever ses gènes la protégeait contre le cancer. Donc on se retrouve avec un effet inverse où on a un gène qui protège chez l'homme contre une tumeur de l'intestin et dont on sait qu'il a été montré qu'en fait il est inducteur de tumeurs pour un autre type de tissu qui est le tissu de la glande mammaire. Donc les choses sont pas si simples. Pour l'homme transgénique, il va falloir réfléchir. Alors que fait-on de ces connaissances ? Alors là, c'est là où, avec mon camarade Miroslav, que vous allez écouter, nous avons décidé, en gros, de poser les questions qui dérangent. Et on a écrit un article qui a été publié dans une revue anglaise qui s'appelait « How good is our genome ?» Est-ce que notre génome est aussi bien que ça, en gros ? Est-ce qu'il faut vraiment s'en contenter ? Et où on disait, en gros, l'évolution ne s'est pas préoccupée de ce qui se passe après la reproduction. Et est-ce que notre génome est assez bien équipé pour nous protéger, justement, puisqu'on a décidé, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, de prolonger notre vie constamment, puisqu'on a pris cette décision, inconsciemment ou consciemment, est-ce que notre génome n'est pas sous-équipé pour ce type de projet ? Alors, faut-il créer des hommes transgéniques ? Évidemment, c'est une question qui nous dépasse, c'est une question presque d'ordre métaphysique, et je ne sais pas si c'est notre génération qui pourra y répondre, mais en tout cas, on peut y réfléchir, on peut déjà poser la question théorique. Alors, Philippe Dick, qui a écrit une nouvelle qui s'appelait « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» qui est ce génie de la science-fiction. Et c'est à partir de cette nouvelle qu'a été fait Blade Runner. Évidemment, pour Philip Dick, ça pose aucun problème, les hommes transgéniques. Mais c'est un romancier. Je voulais, pour vous détendre un peu, vous montrer où, jusqu'où on peut aller. Alors, il y a une exposition Louise Bourgeois à Pompidou actuellement. Et elle a appelé cette sculpture de personnages rembourrés, comme elle les appelle, « Seven in bed ». Sept personnes au lit, et vous vous apercevez que pour en profiter, il y a des gens qui ont deux têtes qui leur permettent de flirter des deux côtés et tout, c'est l'idéal. Donc de fait, on peut créer des hommes comme ça et il peut y avoir des aspects positifs. Mais pour revenir aux choses sérieuses, le clonage thérapeutique, qui est la chose dont on parle le plus actuellement, pourrait correspondre au type de manip dont on a parlé avec Miro dans cet article. On pourrait utiliser, et je vais vous faire, après j'ai terminé, je vais vous faire deux diapos pour vous expliquer ce que c'est que le clonage thérapeutique, parce que je pense que ça vaut le coup, parce que ça change tout le temps, ça change tous les mois pratiquement. Et les problèmes qui se posaient il y a un an, les problèmes éthiques qui se posaient il y a un an, ne se posent plus déjà aujourd'hui. Donc le clonage thérapeutique, on pourrait utiliser ces résultats en médecine régénérative, c'est-à-dire introduire dans les tissus qu'on va remplacer des gènes de résistance au cancer ou à d'autres maladies. Là, on rentrerait pas dans la lignée germinale, on toucherait à des tissus somatiques, ça ne concernerait pas la génération d'après, ça ne soulèverait pas les problèmes métaphysiques dont j'ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'on savait jusqu'à il y a un an? On savait que les cellules souches embryonnaires pouvaient donner in vitro dans une boîte, on pouvait, en leur mettant ce qu'il faut, les faire différencier en différents tissus. Qu'est-ce que c'est que les cellules souches embryonnaires? C'est qu'une fois que l'œuf est fécondé, on a une morula et on arrive au blastocyste. Donc ça, c'est l'œuf fécondé. C'est une, imaginons une five, un œuf fécondé in vitro. Et on arrive avec ce blastocyste qui a 5 à 7 jours, avant, au moment de la réimplantation. Voilà, tu vois la flèche que tu me parlais. On arrive à une masse cellulaire ici, non différenciée, qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. On sait que ces cellules-là, elles peuvent redonner tout l'embryon entier. Elles ont toute la totipotentialité pour donner un embryon. Donc si on les met en culture, on peut faire différencier tous les tissus. Donc les gens ont pensé, mais on va pouvoir remplacer tous les tissus si on dispose de ces cellules en culture. Le problème, c'était ces ovules qui sont très souvent congelés à l'occasion de FIV parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Le problème éthique était, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces ovules? Ou est-ce qu'on a le droit de déclencher des fécondations in vitro pour obtenir ces cellules? Et vous savez, il y a un grand débat, il y a des pays qui les ont autorisés, des pays comme la France n'ont pas voulu qu'on fasse à tort à mon avis, de la recherche sur ces cellules souches embryonnaires à partir d'ovules congelées qui de toute façon n'allaient pas être réutilisées. L'autre problème, si vous avez un individu donné qui a un tissu défaillant, et vous prenez des cellules souches embryonnaires d'un autre individu, et vous différenciez pour faire un tissu neuf que vous voulez lui injecter pour lui remplacer. Il va y avoir un rejet du fait des problèmes de transplantation. Donc, il fallait prendre cet œuf, cet ovule-là, l'injecter avec un noyau du patient, lui introduire le noyau du patient à traiter pour pouvoir avoir des cellules souches embryonnaires qui auraient les mêmes gènes d'histocompatibilité, ça devient un peu compliqué, mais qui lui permettrait, donc, si vous énucléez cet ovule fécondé, vous lui mettez un noyau provenant d'une cellule de ce patient, ça s'appelait le clonage, on peut en faire du clonage reproductif, mais on va parler que du clonage thérapeutique, donc on prend une cellule de la peau de ce monsieur, on va énucléer cet ovule, on va mettre ce noyau-là, et on sait qu'on va pouvoir pousser la fécondation jusqu'au blastocyste et sortir des cellules embryonnaires. Ces cellules embryonnaires vont donner des tissus et là, on va pouvoir les implanter à ce monsieur parce qu'ils seront du même groupe tissulaire. C'est compliqué, on ne sait vraiment pas encore très bien faire ça. Il y a un Coréen qui a dit qu'il savait faire ça et on s'est aperçu, qui a publié dans les grandes revues et on s'est aperçu qu'il avait menti. Donc, tous les problèmes éthiques que se posent les juristes dans le monde entier pour savoir si oui ou non, il faut recommander ce type de manip, on a le droit de toucher à ces ovules fécondés, congelés, etc. Là où la science, et c'est ce qu'on dit toujours entre copains, là où la science est imprévisible, c'est qu'à partir du moment où on se posait ces questions, il y a un Japonais l'année dernière qui s'appelle Yamanaka et qui a montré qu'en fait, les choses pouvaient être beaucoup plus simples que ça. On n'a pas besoin de prendre un ovule fécondé. On prend une cellule de la peau de cet individu. On lui transfecte 4 gènes. Et quand on lui a transfecté ces 4 gènes, il en fait ces cellules se dédifférencient, elles ne sont plus des cellules de la peau, et elles deviennent des cellules souches pluripotentes qui peuvent donner tous les types de tissus. Alors, c'est pas simple. C'est une manip qui n'a pas une grande efficacité. Parmi ces quatre gènes, il y a des gènes, même si on les met de façon transitoire, il y a ce gène MYC dont on sait qu'il peut induire des tumeurs. Donc, on est encore au stade des manips. Mais le problème éthique sur les ovules fécondés est déjà dépassé d'une certaine façon, puisqu'on pourra prendre l'individu qu'on veut soigner. On pourra lui gratter une cellule de la peau, on pourra lui transfecter ces quatre gènes, et à partir de ces cellules pluripotentes, refaire un tissu. Le problème, c'est que si ce monsieur a une maladie génétique, on va lui refaire un tissu avec la même maladie. Donc là, on va lui réparer son gène. On peut lui réparer en introduisant le gène correct dans ses cellules. On va pouvoir aussi renforcer la résistance de ce gène et lui injecter peut-être un gène P53 ou P14-P16, mettre les produits qu'il faut pour différencier dans le tissu dont il a besoin le remplacement et lui transplanter. Alors ça a l'air de la science-fiction, mais il y a 3 mois... dans la revue Nature, Rudolf Janisch, au Whitehead Institute à Boston, a pris une souris qui avait une maladie du système lymphoïde, une maladie des globules rouges. Il a gratté une cellule de la peau, il a transfecté les 4 gènes, il a fait des cellules pluripotentes, il a réparé le gène de l'hémoglobine malade sur un des 2 chromosomes, il a différencié la cellule réparée en tissu hématopoïétique, il l'a injecté à la souris et il a guéri la souris. Donc on est quand même à l'aube de la possibilité de réparer tous les tissus à partir de ce genre de manip. Alors là, je voulais vous montrer pour finir Louise Bourgeois. Vous voyez, je ne sais pas combien de gènes P53 elle a, mais elle a plus de 90 ans. Vous voyez, elle a une bonne forme, ça c'est une de ses dernières sculptures. Vous pouvez imaginer à quoi elle pense. Et regardez ses yeux quand même, ça va très bien pour elle. Elle vit aux États-Unis et elle a été reconnue, dit-elle dans sa biographie, elle a eu sa reconnaissance à 71 ans. Donc vous voyez, il faut être patient. Et pour finir, ce sont les gens avec qui je travaille à l'hôpital Necker, avec Claude Agnès Reynaud, qui co-dirige l'unité avec moi. Et je ne sais pas pourquoi il y a une flèche sur Sandra. Si elle est là, elle va rougir. Merci beaucoup. C'est le mien. Je recommence pas. Ça.
Oh, voilà.
Molina, non ?
Non, non. 2007.
Oh non, ça va venir.
C'est pas Molina, c'est UTLS 2007.
Ah, non, zut, c'est pas ça.
C'est pas ça. UTLS 2007, c'est là, c'est ça.
Je sais pas pourquoi tout ça s'est mis. Dans... Et puis il revient.
Dans
où est-ce que tu es, toi?
Ici.
Ah. Oui, ben moi, mon ordinateur ne veut pas que. Il veut pas que Miroslav fasse sa conférence.
Oui.
Il est vache, non? Attends. Il veut pas.
Encore dans la poubelle.
Je lui ai rien dit. Alors?
Encore. Il est quelque part caché.
Je veux virer ça aussi?
Oui.
Ça continue? Non, là, c'est peut-être ça.
UTLS, voilà.
C'est bon, c'est bon.
Je
tourne et je m'en vais.
Merci beaucoup.
Assieds-toi là.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Et maintenant, je vous plains. Après le plaisir d'écouter mon brillant ami Jean-Claude Weil, vous devez écouter une vingtaine de minutes... Moi. Et je ne sais même pas parler français correctement. Voilà. On va commencer par cette image ici de Escher. On s'occupe dans mon unité de recherche avec mes brillantes collègues François Tadei et Ivan Matic de la robustesse des organismes très simples, par exemple les bactéries. Et ce qu'on a présenté ici est la question, pourquoi les problèmes et quels problèmes s'accumulent dans les machines biologiques qui sont ADN, qui sont les protéines, les cellules, qui se auto-répliquent comme l'ADN, à partie de une au début de la vie jusqu'à centaines de milliards, qui se auto-corrige, qui corrige les erreurs et qui se auto-maintient. La maintenance, c'est ça ce qui assure la robustesse, la durabilité d'un organisme. Et ici, donc, si vous imaginez que cette main, ici, sont les gènes qui dirigent la synthèse des protéines, mais les protéines synthétisent, construisent l'ADN, qui de nouveau dirige la synthèse des protéines, dès que quelque part une erreur commence, cette erreur est transmise. Une protéine erronée, si c'est une polymérase, l'enzyme qui copie l'ADN, va faire modifier, va faire davantage d'erreurs dans l'ADN. Cet ADN va diriger la synthèse de plus de protéines erronées, ainsi de suite. On finit comme ça, on finit par une avalanche d'erreurs, de choses s'empirent. Et c'est comme ça qu'on imagine le vieillissement qui finit par une catastrophe d'erreurs qui est la mort. Donc on s'intéresse à des mécanismes moléculaires, à comprendre vraiment comment se fait-il qu'au début de la vie, il y a si peu d'erreurs, peu de cancers, l'organisme tel que le nôtre est en pleine forme pendant un certain temps de reproduction, et qu'après, on abandonne cette fidélité, cette précision. Et pourquoi est-ce qu'on peut modifier cela? Voilà, ici, à propos, est-ce qu'on peut modifier? Ici, vous voyez les courbes de survie au cours du temps. Ça, sont dans le jour. C'est un nématode très simple. C'est Neurabditis elegans. Et si le nématode est normal, de type sauvage, comme on dit, et il mange Escherichia coli, sa nourriture quotidienne dans le laboratoire, voilà, cette population naît le jour zéro. Si vous suivez 100 vers naît le jour zéro, après 10 jours, il va commencer la décroissance, donc la mort progressive, et vers le 20 jours, il n'y aura pas un seul qui a survécu. Mais si on inactive un gène, ce que Jean-Claude vous a montré, intuitivement, ça fait un sens. Rajouter au génome quelque chose qu'il n'a pas, et il y a une meilleure performance. Mais ça gêne un peu plus. On inactive un gène ici, et la souris vit 10 jours de plus. C'est beaucoup, c'est 50% de plus que la souris. Alors, si le phénotype, qu'on a dit, l'expression du génome, c'est la survie, elle dépend bien sûr du génotype, voilà. Il y a d'autres mutants qui vivent beaucoup, beaucoup moins longtemps. Voilà, celle-ci qui vit plus longtemps, ça dépend du génotype, on le savait. Ça dépend aussi de l'environnement. Qu'est-ce qu'elle mange? Si le nématode normal, si cette ver normale mange Escherichia coli, voilà, il survit comme ça. Si il mange Bacillus subtilis, apparemment une nourriture beaucoup meilleure, c'est celle-ci, pardon. Voilà, il vit beaucoup plus longtemps, deux fois. Si cette mutant qui vit déjà 50% de plus longtemps mange le subtilis, la nourriture supérieure apparemment, voilà, la courbe de survie est décalée ici. On vit jusqu'à 40 jours, deux fois plus. Ça ferait 200 ans pour nous. Voilà. Donc, oui, il y a des mutants chez la drosophile et chez la souris qui sont capables à vivre deux, trois fois plus que la souris ou que la mouche normale. Et Jean-Claude et moi, la motivation de... Pardon? Pardon? Attendez.
Bon, excusez-moi, il est absolument hors de question que vous interveniez maintenant. Vous pourrez poser des questions après. Je trouve que ces atteintes à la liberté de penser, à la liberté d'expression, sont absolument insupportables. Hein? Vous êtes véritablement des petits terroristes de merde.
Qu'est-ce que vous voulez? Extrêmement désagréable, je ne sais pas. En tout cas, monsieur, pour cette courte de survie, vous devez parler au nématode pour lui demander comment il se sent. Je n'ai pas pu parler avec les vers, est-ce qu'ils sont heureux ici ou pas.
On est vraiment dans une situation où on n'a absolument plus le droit de rien dire. Hein? Si les gens ont envie de poser des questions, ils les posent après. Et deuxièmement, si comme la dame le dit, ce discours leur est insupportable, ils n'ont qu'à partir. Allez, dehors. Hein.
Si. Comment savez-vous qu'est-ce que je voulais dire? Comment savez-vous ce que je voulais dire? Bon. Je ne mérite pas une telle attention, vraiment, très sérieusement. Je suis désolé, je suis complètement déboussolé, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cela? Attendez, pourquoi vous anticipez ce que je veux dire? Pour le moment, vous devez parler au verre seulement, au nématode, ok? Parlez au nématode, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Écoutez, je vais vous parler des choses parfaitement naturelles. Pardon, s'il vous plaît. Je vous parlais à... Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça fait plaisir de sentir la civilisation et la fraternité et le droit de parler parce que toute cette conférence est pour que vous puissiez poser les questions plus tard et donner votre commentaire plus tard. C'est seulement un prétexte. Je vais vous montrer quelques cas pure nature, pas de mutants, rien, même si l'évolution, c'est une histoire de mutation naturelle, évidemment. Ce qui doit vous concerner, quoi que vous pensez, que c'est avec cette courbe ici, ça c'est notre destin. Ça c'est le risque cumulatif de cancer par rapport à l'âge. Ça veut dire, si vous prenez les tranches d'âge, par exemple, la France entière, les gens qui ont été nés il y a 80 ans, et vous les suivez au cours de 80 ans, vous allez voir qu'ils vont vivre bien, se reproduire, et après 45 ans à peu près, d'une façon exponentielle, hein, le risque de mourir de cancer va augmenter comme ça. Si j'avais des données ici pour vous de la mortalité en général, et bien sûr, elle arrive un peu avant cette courbe de cancer, pardon, car c'est les maladies cardiovasculaires qui sont toujours le tueur numéro un encore aujourd'hui. Puis c'est le cancer, et après, c'est les maladies neurodégénératives et les maladies aussi infectieuses, la pneumonie, et ainsi de suite. C'est notre destin. Cette courbe de mortalité générale, qui serait ici, cardiovasculaire, cancer, neurodégénérative, sont tous parallèles. Et je suis chercheur. De voir qu'ils sont tous parallèles, c'est comme s'il y a un espoir que quelque part, il y a une chimie de base, une cause commune de tous nos maux, et que chez quelqu'un, ça va vers le cancer, chez quelqu'un, ça va vers la maladie cardiovasculaire, chez d'autres, dans la maladie neurodégénérative. Si c'était vrai, encore une fois, je suis chercheur pur, pure race comme chercheur, je me permets de demander toutes les questions qui me traversent l'esprit, et de se dire, peut-être, si nous avons la chance, que ce soit un processus, un horloge chimique qui clique comme ça pour nous, qui clique comme ça pour les rongeurs, pour le rat, pour des mêmes raisons d'ailleurs. Ouais. Donc pour nous, pour les maladies cardiovasculaires, cancer, neurodégénératives, tout ce qui nous tue, ça clique avec ce rythme ici qui est tap, 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 tap. Même horloge somatique clique pour la souris, ta 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 ta, 30 fois plus vite. On aimerait bien savoir quelle est la chimie de cette horloge somatique qui détermine la durée de vie, l'incidence, la vitesse par laquelle les maladies arrivent. Est-ce quelque chose d'obscène? Et alors, quand je regarde cette courbe ici, on a trouvé tout à fait normal d'envier, à l'époque, d'envier les oiseaux qui volent, d'envier les poissons qui plongent. Et on est arrivé à voler, à plonger. Est-ce qu'il est pervers de se demander, cette courbe ici, et si on pourrait la déplacer? Au moins pour moi. Si... Est-ce que c'est... Toute la médecine, c'est quelque chose de non naturel. C'est éviter la mort naturelle de tuberculose, de cancer, etc. Imaginez que nous... Qui veut vivre sans intervention humaine? C'est facile. Il y a encore quelques coins sur la Terre où il ou elle peut se retirer et faire ce qu'il veut, ou elle veut. Okay. Mais nous, apparemment... On a pris ce chemin d'utiliser la connaissance pour l'intention d'améliorer la qualité et la longueur de notre vie. Donc, si de voler et de plonger n'est pas pervers, de vouloir déplacer cette courbe de 10, 20, 30, hein, voilà. On va maintenant voir, est-ce qu'il y a dans la diversité du vivant, y a-t-il des organismes qu'on pouvait envier par rapport à ça? Et je vais vous parler une dizaine de minutes seulement avant d'ouvrir la discussion avec Jean-Claude, qu'il existe et qu'il... Oui, on peut les envier. Une bactérie est Deinococcus radiodurans. Elle a été découverte en 1956, il y a 50 ans, comme contaminante dans les conserves des viandes aux États-Unis qui ont été stérilisées par des doses très élevées des rayons gamma au cobalt, les mêmes qu'on utilise pour la thérapie de cancer. En général, comme Jean-Claude m'avait suggéré de commencer, si on veut faire le scénario de catastrophe, un terrible virus qui va décimer tout le monde ou anéantir une bonne partie de la vie, une guerre nucléaire, quelque chose d'horrible, l'irradiation... si quelque chose, il y a peu de chances que la vie soit extincte à cause des bactéries. Moi, je me souviens encore des temps quand les médecins stérilisaient leurs seringues métalliques et en verre en faisant bouillir dans l'eau. On stérilisait et on stérilise encore le matériel et la nourriture dans les boîtes par les rayons gamma. Et pourtant, il y a des bactéries qui vivent dans l'eau bouillante des geysers, qui ne peut pas vivre à 37 degrés, qui sont congelés à cette température chaude, pourtant, ici. Donc, l'adaptation, l'adaptabilité de la vie est formidable. Et je vais vous raconter, pendant 10 minutes, une histoire des organismes les plus robustes qu'on connaît. Et je ne vais faire aucun commentaire, c'est simplement vous laisser connaître des processus et quelques processus et organismes qui sont tellement robustes qu'ils nous laissent rêver, certainement laissent rêver moi, oh mon Dieu, si moi au moins je pouvais être aussi robuste. Donc ça, c'est la bactérie Deinococcus radiodurans, qu'on appelle avec tas de noms parce qu'elle elle a des caractéristiques dont je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est une autre image de cette bactérie ici. Elle est dans le Guinness Book of Records comme l'organisme le plus robuste des organismes. Pourquoi le plus robuste des organismes? On la trouve en effet dans le sable des déserts. Si vous prenez du sable des déserts, vous le lavez un peu, vous étalez, comme bactérie, vous allez trouver cette bactérie ici. Et pourtant, desséchée complètement, brûlée par le soleil, traitement ultraviolet et dessèchement, quelque chose qui sert à stériliser contre la vie des bactéries, évidemment. Hein, et pourtant, cette bactérie ici, elle survit. Après, quand l'eau arrive sous forme de pluie, elle se réhydrate. Et malgré le fait qu'on sait, je vais vous montrer quelques images, qu'après des radiations de 1 million de rads, radiation stérilisante pour la nourriture, ou 3-4 mois brûlés dans le sable des déserts, et ça ne sont pas des spores. L'intérieur de cette cellule, c'est un peu comme Hiroshima-Nagasaki, comme Dresden. Et juste comme Hiroshima-Nagasaki et Dresden, que les gens ont reconstitué, elles ont les enzymes, les protéines, qui reconstituent la vie. Une sorte de ressuscitation, la résurrection. Et je vais vous seulement en 10 minutes montrer ce qu'on sait, car on commence seulement à connaître un peu ces mécanismes ici. Ça, c'est l'organisme le plus résistant aux radiations. Et il est résistant aux radiations parce que cette bactérie a choisi, elle n'est pas très efficace, elle n'est pas rapide, mais elle a choisi donc d'éviter la compétition avec toute autre bactérie qui sont tellement rapides, pour aller vivre là, survivre là, où d'autres ne peuvent pas. Donc, elle peut se permettre le luxe d'éviter la compétition, mais au prix d'une robustesse, éviter la compétition, ça veut dire survivre quelque chose que le reste du monde ne peut pas survivre, une dessiccation. Comment ça marche? On va voir tout de suite. Voilà, je vais vous donner une image. Sans entrer dans quoi que ce soit comme détail, ça c'est l'analyse de l'ADN de cette bactérie. Donc ça correspond peut-être à 10 millions de bactéries. Son ADN est coupé avec des enzymes spécifiques à l'endroit donné. Il y a 11 fragments. Donc ça c'est une sorte de carte d'identité physique de son ADN intact. Après irradiation de 350 000 rads, ou presque 1,5 million de rads ici, vous voyez que ces chromosomes ont été pulvérisés. Mais alors, ici, pulvérisés en des tout petits morceaux, plus petits que le virus, 300 morceaux. Le génome, l'ADN, qui est une molécule contiguë, un texte contiguë, était avec cette dose de radiation est telle que ça a découpé le génome en 300 morceaux. Imaginez un texte, un livre, écrit en une seule ligne, hein, 1-2 kilomètres, une seule ligne, et vous pouvez lire, ça c'est l'ADN. Pour cette bactérie ici, il faut qu'il y ait au moins 2 copies, toujours. Donc imaginez 2 livres écrits en une seule ligne, que vous devez vous promener 1 kilomètre pour la lire, et que quelqu'un, un gosse, arrive et avec le ciseau, découpe à différents endroits, à 300 endroits, les 2 copies. Et maintenant, il mélange tout. Et que vous ne connaissez pas le texte. Comment remettre en bon ordre 300 morceaux de ce texte d'ADN en bon ordre? Eh bien, vous pouvez imaginer même si c'était écrit d'une façon incompréhensible pour vous ou pour moi, on peut, lorsqu'il y a deux copies, regarder le chevauchement. Le fragment qui est ABCD a chevauché avec DEF, ainsi de suite. Et je vais vous montrer comment ça se passe physiquement. Voilà. Ce que vous pouvez voir ici, qu'avec cette dose ici, il faut environ 2 heures pour reconstituer, pour remettre une cinquantaine de fragments en bon ordre. Ici, il faut remettre 200, 250 fragments en bon ordre. Ça prend plus longtemps. L'ADN presque disparaît ici. Et c'est comme si l'ADN elle-même, elle a ressuscité. Et ici, à 6 heures, tout le monde est là, tous les fragments, tout le texte génétique est reconstitué. J'ai trouvé c'est magique. Comment c'est fait? C'était un bon projet de recherche. Et on a, heureusement, les fonctions, les mutants, qui ne font pas ça. Voilà, décomposé, reste décomposé, et c'est fini. On peut étudier les fonctions, on peut étudier même les certains produits chimiques qui inhibent ce processus ici, voilà, intact, décomposé, et en présence de cette hydroxyurée, pendant qu'elle est là, rien. Dès qu'on enlève hydroxyurée, on diminue la quantité d'ADN et on le refait. Donc voilà, on peut faire les recherches. C'est la seule chose que je veux vous dire. Les gènes, les fonctions, les inhibiteurs, et voilà, on peut faire les manips dans le labo et chapeau. À des gens qui choisissent la carrière de chercheur, parce qu'il faut faire beaucoup, 4-5 ans de travail à plusieurs pour publier une seule publication comme celle-ci. Et voilà comment la bactérie le fait. Donc, ces fragments, il y en a plusieurs centaines, proviennent de plusieurs copies du génome. C'est normal, elle a plusieurs copies du génome, comme d'autres bactéries d'ailleurs. Prenons seulement 3 ici qui se chevauchent, comme si c'était A, B, C, D, D, E, F, et puis F, G, H, etc. Mais comment le faire physiquement? Elle le fait physiquement en engageant avec les protéines qu'on connaît déjà, on va lire. Au lieu de pouvoir directement couper et coller avec une colle les morceaux, elle va faire une photocopie, une copie réelle, en effet, de ce fragment ici, dans ce sens-là, ce morceau rouge est néosynthétisé, c'est la copie. L'autre brin va copier le brin complémentaire, c'est comme positif et négatif dans une photo. Et voilà, on aura le trou ici, manquant, et maintenant rempli par une copie néosynthétisé, néogénéré, dans les deux sens, c'est parfaitement complémentaire, et ça, c'est colle, comme le velcro, positif et négatif, voilà, avant voilà, et c'est comme ça. Ça, c'est acte élémentaire, et vous faites ça sur centaines de morceaux, et l'ADN est reconstitué. Voilà, ça, c'est déjà une image un peu plus complexe, et finalement, comme le chromosome est circulaire, voilà, on va, avec ce processus, prendre des centaines de morceaux, de les mettre dans un ordre sans faire des erreurs, avec une précision fantastique, mais on ne sait pas, comme il n'y a pas une intelligence à lire le texte, on ne sait pas où commence l'histoire de cet ADN ici, où elle finit. Pour ça, il nous faut un autre processus qu'on appelle recombinaison homologue, qui marche sur le chevauchement, mais directement. Elle va, par exemple, si le texte était plus long qu'unité, il va y avoir cette figure escargot où cette séquence ici est A et l'autre en bas est A, et on découpe et on finit avec les chromosomes circulaires intacts. Et voilà, ça, une fois appris ça, c'était publié dans une revue de grande réputation avec beaucoup de commentaires, etc. Tout le monde était content et on a bu le champagne. Mais qu'est-ce qu'on peut... est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'on peut vraiment être jaloux et envieux d'une petite bactérie parce qu'elle est tellement robuste? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont... Oui, il y en a. La première bestiole, Animalculus, appelée par Van Leeuwenhoek, quand il a, avec son microscope primitif, c'était un peu deux loupes, vu les premières bestioles non visibles à l'œil nu, ben c'était celles qui sont 0,3 un tiers de millimètre. Donc, il suffit de les augmenter quelquefois et on le voit. Et il a, en effet, il avait vu que cette bestiole ici s'est réhydratée, invisible, dans la poussière, s'est réhydratée et comme si elle était née de rien, de la poussière. En effet, oui, dans la poussière, ces trotifères sont desséchés pendant des mois, comme la bactérie. Ils sont partout, hein, surtout sur les cimetières, la surface des pierres, où il y a un peu de mousse, aux dernières humidités, et là, ça se dessèche, et ça peut attendre des mois et des mois desséchés. Un autre animal, plus complexe, ça c'est un petit animal, 1000 cellules à peu près, celui-ci c'est 40 000 cellules, avec un système nerveux, intestinal, tout ça, ça peut attendre desséchés pendant 10 ans. Et puis, revenir à la vie. C'est comme si on pouvait, avec ces petits animaux et la bactérie, étudier, en étant chercheur, j'ai un système expérimental où je peux étudier. Mais quelle aventure et quelle surprise. On peut étudier la transition entre la mort et la vie d'une façon réversible. Mort, vie, hydraté, déshydraté, irradié, ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous quelque chose d'extrêmement récent dans la recherche, et vous dire que finalement, ça nous donne un espoir à trouver qu'est-ce qu'il y a dans cet animal ici, ou dans la bactérie, qu'est-ce qu'il y a dans leur cytoplasme, que une telle résistance aux radiations ionisantes qui produisent énormément des radicaux libres d'oxygène, donc quelque chose qui provoque la corrosion dont nous sommes victimes avec l'âge, à 70, 80, 90 ans, d'une façon aiguë, cette irradiation produise une telle masse des radicaux libres, où se trouve leur secret. Donc voilà, ça c'est notre projet de recherche. Et c'est comme si, si vous avez vu l'ADN, comme si on réussit à reconstituer l'ADN, la connaissance de construire cet organisme, cette cellule, est là, et on peut resynthétiser tout. On peut commencer à revivre, comme si vraiment, au niveau d'ADN, si on réussit à reconstituer le génome, on peut ressusciter la vie. Et c'est un peu... moi, j'étais étonné et d'ailleurs content par rapport à notre projet que toutes les 15 syndromes progéroïdes, ça veut dire les syndromes rares où le phénotype est de vieillir très très vite. Certains de ces enfants, à 10 ans, ils ont l'air de quelqu'un de 80 ou 90 ans, ils meurent très très vite. Donc, voilà la liste de cette maladie très rare, mais terrible, des vieillissements accélérés, et la seule chose qui est commune à cette syndrome, c'est que le génome est déstabilisé. Il n'y a pas. Voilà, et pour commencer, vous savez, sans un peu de sens d'humour, je crois qu'on est mort, même comme le chercheur, et je suis vraiment désolé de l'atmosphère désagréable au début de ma conférence. Voilà ce qu'il a dit Woody Allen. Autant que nous sommes mortels, nous ne serons pas relaxés. Et certains sont moins relaxés ou plus relaxés, comme vous avez pu voir. J'aimerais beaucoup vous relaxer autant que moi je suis relaxé. Je ne sens pas de censure dans ma tête et je vous invite à ne pas le sentir dans votre. Il n'y a aucune raison de devenir des esclaves d'une façon auto-imposée. Voilà ce qu'il dit notre ami et médecin Philippe Geluck. C'est sans doute parce que la médecine a progressé très, très lentement pendant des millénaires qu'on a bien dû appeler les malades des patients. Patients, patients. Et qui, alors, et qui a peur des questions, qui a peur de doigts de dieux, des différents dieux qui existent, dont j'ai beaucoup de respect à toutes les croyances. Je n'ai pas toujours la patience, mais j'ai le respect. Et à propos de l'intelligent design, encore une de Philippe Geluck, que j'adore. Voilà, son personnage dit « Dieu a créé l'homme à son image ». C'était comme ça au début, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Ensuite, l'homme a évolué, comme ça. Dieu, lui, on ne sait pas. Je vous laisse avec cette blague de Philippe Geluck.
Alors...
Et merci pour votre patience.
Alors, merci.
Et voilà, les questions sont
merci
plus
à Radman et à Veil. Et on passe aux questions. Alors, je suppose que vous en avez. Que manifestez-vous? Veil veut faire une
je vais faire un commentaire quand même sur l'intervention un peu musclée de tout à l'heure. Et je voudrais quand même dire que ces gens confirmaient ce qu'a dit Miroslav Radman, et là je vous parlais du système immunitaire, je ne crois pas que ces gens ont réalisé que sans l'intervention humaine, le système immunitaire ne nous protège pas très bien. Il a beau être très difficile à étudier, la première maladie infectieuse, le système immunitaire est incapable, les bactéries vont trop vite, elles mutent trop, les virus aussi. Dans la plupart des cas, à la première maladie infectieuse, on meurt, et si on n'avait pas inventé les antibiotiques, on aurait beaucoup de mal à vivre plus que 30 ou 40 ans. Et je crois que si Mozart avait connu une pharmacie avec des antibiotiques, il ne serait même pas allé voir un médecin. Donc il faut croire que la nature telle qu'on l'a évoluée peut suffire, c'est une aberration, et je crois qu'ils se trompent dans leur prophétie.
Une question.
Oui. Est-ce que dans toutes ces expériences, est-ce qu'on peut remplacer le sommeil par la nourriture?
Jean-Claude, c'est pour toi, tu es malin.
Bon, posez.
Vous voulez dire, il faut dormir moins et manger plus ou l'inverse?
On a 3 jours sans dormir, par exemple. C'est terrible, ça. C'est
l'insomnie, vous
une torture
voulez.
Que j'ai subie. 3 jours sans dormir. Bon, eh bien, en mangeant, on se remettait. Et je ne suis pas le seul témoin pour cela, de cette expérience.
La seule chose que je peux dire, c'est sur je ne sais pas si Miro voulait dire ça, et je ne réponds pas à votre question, je ne peux pas y répondre, mais sur la restriction calorique, les expériences qui ont été faites sur les animaux et sur la souris, quand on met ces animaux en restriction calorique, on diminue de 20 à 40% leur ingestion de calories, ils vivent de 20 à 40% plus longtemps. C'est la seule chose que je peux vous dire. Excusez-moi, je ne peux pas vous...
Non. Monsieur, je trouve que votre question est vraiment intéressante. Et comme je suis un optimiste pathologique, du point de vue optimisme, je crois qu'il nous manque simplement des connaissances. Je crois qu'il va y arriver un jour, dans 100 ans, où on va pouvoir faire le design de la nourriture. Parce que pourquoi on a l'énergie? On prend des molécules relativement complexes de sucre, on les décompose en CO2 et l'eau. Et on prend l'énergie de la décomposition de la molécule. Je n'ai aucun problème, à mon imagination, on n'a pas de problème, à imaginer un jour de savoir, voilà, pour le travail des neurones, il faut ceci et cela. Je vais faire un design d'une molécule très complexe, cyclique, etc. Et si vous la mangez, donc d'avoir la nourriture qui sera la nourriture de jouvence, la nourriture de Dieu, entre guillemets, ok. Je n'ai aucun problème à imaginer ça, même si ça se passe dans 500 ans.
Oui. Si j'ai bien compris, le nombre de réplications. Le fait qu'on aboutisse à un vieillissement est dû au fait que le nombre de réplications sont suffisamment importantes pour qu'une probabilité d'accident au cours d'une réplication augmente. Finalement, ça paraît tout à fait évident. Alors, est-ce que, par exemple, la différence entre les courbes souris et hommes est justifié par ce point de vue, c'est-à-dire que finalement le nombre de réplications pour une même durée chez la souris est plus ou moins importante qu'elle est chez l'homme, qui pourrait expliquer qu'elle vieillit plus ou moins vite.
Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis spécialiste des mutations et avec tas de collègues partout dans le monde, on s'est demandé, est-ce que le vieillissement corrèle avec la fréquence des mutations dans le génome des cellules somatiques? Oui, ça augmente un peu d'un facteur de 2 peut-être, mais ce n'est pas impressionnant. Je crois plutôt, mon sentiment est plutôt que toutes les fonctions de la cellule, inclus le maintien de l'ADN, dépendent des systèmes de maintien. Qu'il y a des médecins moléculaires, les enzymes, qui diagnostiquent le défaut dans l'ADN. Il y a des chirurgiens qui font la microchirurgie, découpent les morceaux qui sont malades chimiquement, endommagés, lésés. Il sort de l'ADN, il met dedans comme sparadrap on copie. Donc, il y a des médecins de protéines malades, et ça, c'est le problème principal, je crois, c'est que les protéines sont les molécules qui font tout le boulot, sont des travailleurs. Les gènes sont importants seulement parce qu'ils codent pour la synthèse des travailleurs. L'ADN ne fait rien. Le tassin, là, dans le noyau, est dans ses doigts. Donc, avant de se faire copier. Donc, il y a des médecins de protéines malades qu'on appelle les chaperons, etc. Mais comme ces médecins moléculaires, qui sont pourtant meilleurs que la majorité de nos médecins humains, des points de vue précision des diagnostics et l'efficacité, ils sont aussi les mortels des protéines. Eux aussi sont oxydables. Et alors, quand les médecins, qui sont bons, deviennent malades, c'est très mauvais pour le reste de la cellule. Et je crois que c'est comme ça qu'on investit beaucoup dans la protection contre cette usure qui est la corrosion moléculaire, beaucoup pendant qu'on est dans la reproduction, parce que toute espèce qui n'a pas voulu investir, elle n'est plus là. Ouais. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont suffisamment investi dans le maintien de la bonne santé des médecins, et médecins, les protéines médecins qui s'occupent du reste, et qu'à un moment donné, on aimerait bien savoir quelle est tromper cette décision qui dit « je suis plus reproductive, n'investissons plus dans le maintien comme avec la vieille voiture. Je ne vais plus aller chez le garagiste, je le laisse crever. » Parce qu'en effet, l'autre théorie était qu'il y a horloge biologique, qu'on est humaine ou singe ou chat ou souris, qu'il y a une horloge, mais ça aurait été plus élégant qu'on vit, disons, combien, 80, 90 ans, en pleine santé, et puis bang, qu'on explose. Mais ce n'est pas ça. La nature se désintéresse, comme Jean-Claude disait, et nous laisse lentement d'aller vers la décrépitude et de s'éteindre comme ça. Mais je crois que c'est surtout la qualité des protéines, et la vitesse par laquelle ils sont resynthétisés frais. Okay. Ça c'est mon point de vue en étudiant ces bactéries et les rotifères.
Monsieur là-haut.
Oui, une question à propos de l'organisme le plus résistant du monde dont j'ai oublié le nom, dont vous aviez parlé. Je voudrais savoir, enfin c'est une question peut-être un peu bateau, mais est-ce que cette capacité de regenèse parfaite de l'ADN, ça bloque pas l'évolution de l'organisme? Enfin, est-ce que l'ADN n'est pas entre guillemets trop solide? Et est-ce que c'est, enfin, comment est-ce qu'il évolue justement?
Excellente question. Et d'une façon bizarre, à la fois tardigrade et rotifère, et Deinococcus comme bactéries, ils se reproduisent asexuellement. Ils ont abandonné la sexualité, mais dans les rotifères et cette bactérie ici, il y a des preuves, des traces claires, des gènes qu'ils ont un sexe sans frontières. Un peu, ça veut dire qu'ils avalent les gènes. Ils se font transformer par les gènes des plantes pour résister à la sécheresse, parce que qu'est-ce qui résiste le plus à la sécheresse? C'est les semences. Il y a des semences des temps d'Égypte qui ont encore gardé la vie d'embryon qui donne la naissance à une plante. Donc, ils ont chipé, ils ont volé, ils sont voleurs de gènes, parce que pendant la dessiccation, déshydratation, tout le monde crève, il y a de l'ADN autour, ces bactéries se laissent transformer, mais même les animaux. Et dans les rotifères, il y a des gènes d'origine bactérienne, des champignons et des plantes. Donc, ils se reproduisent asexuellement, mais ils ont un sexe pervers. Au-delà de toutes les frontières des espèces, ils prennent les gènes qui sont utiles et après, ils se disent, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais me cloner maintenant. Donc, si je réponds à votre question, oui, ils sont stables génétiquement, mais ils sont des voleurs de gènes. Ils sont mosaïques génétiques assez riches des différentes espèces. Voilà. C'est comme ça. Ils ont ce qu'on appelle dans le labo, dans le jargon, un peu le nécrosexe, de voler l'ADN des morts et de l'incorporer dans leur génome, si ça fait du bien pour la résistance.
Okay. Monsieur
D'abord, une toute petite remarque. Heureusement que Pasteur, lors de ses expériences pour montrer que la génération spontanée n'existait pas, oui, n'a pas connu vos bactéries ultra-résistantes, parce que sinon, ces expériences auraient été un échec.
Absolument. Il n'y avait pas de bon microscope pour les voir dessécher, oui, comme un petit bout de plastique. Vous avez raison, oui, oui.
Alors, ma question, lorsqu'on injecte, lorsqu'on essaye de fixer un gène sur une molécule du DNA, je suppose que la place du gène dans la molécule est très importante. Il ne peut pas se placer n'importe où pour qu'il puisse s'exprimer par la suite. Or, l'injection se fait avec une seringue, donc c'est parfaitement aléatoire. Alors comment fait-on pour non seulement injecter le gène, mais lui donner sa bonne position sur la molécule?
Très bonne question. On ne peut pas diriger le gène dans une région donnée, c'est aléatoire. Donc la façon dont les chercheurs ont contourné ça... D'ailleurs, si vous permettez, je vous donnerai un contre-exemple après. La façon dont les chercheurs ont contourné ça, c'est, dans le cas de la P53, par exemple, on a injecté le gène et 100 kilobases, une très grande distance d'ADN tout autour. Toutes les régions de contrôle ont été injectées. Donc, on a coupé le gène, c'est Manuel qui a fait ça, sur 100 kilobases. Donc, le gène qui fait quelques kilobases et toutes les régions de contrôle autour. Et c'est ce grand fragment qu'il a injecté. Partant du principe qu'à partir du moment où on injecte le gène avec sa régulation, il s'affranchit du lieu où il va atterrir dans le génome. Car si on avait injecté que les 10 KB du gène, comme vous dites, suivant l'endroit où il arrive, il peut être éteint, il peut être activé, il peut être activé de façon anormale. Donc ça, c'est pour, si ça répond à la première question, il faut injecter ce qu'on appelle un BAC. Un BAC, c'est un morceau de 100 KB qui contient le gène avec toute sa régulation. Et quel que soit l'endroit où il est, il va être régulé comme le gène normal. Là où votre question est passionnante, c'est que elle l'est, mais elle l'est encore plus quand il s'agit de la thérapie génique. Car comme vous le savez, quand on prend les cellules hématopoïétiques souches d'un enfant pour réparer un gène, à nouveau, on injecte le gène n'importe où. Et si le gène atterrit dans une région où il va activer un oncogène, on peut déclencher une tumeur chez cet enfant en ayant voulu réparer le gène. On a mis un gène de réparation, mais on a activé quelque chose d'autre. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont en train d'être mises en place chez la souris où, par des systèmes enzymatiques de reconnaissance, on va pouvoir aller à l'endroit où on veut sur le génome. Et c'est la clé des manips de thérapie génique, c'est de pouvoir cibler l'intégration du gène.
En haut.
Je vais poser une question.
Attendez, après. En haut.
Une
question.
Oui, une question peut-être un peu basique pour revenir sur une des diapositives que nous montrait Monsieur Weil. Quant à la différence d'occurrence en fonction des âges du cancer chez la femme par rapport à l'homme, quelle explication génétique et quel lien avec la manip que vous nous avez montré?
Quel lien avec, j'ai pas compris la dernière fois, le dernier mot.
Oui, quel lien avec la manip, donc avec que vous nous avez montré explicité.
Dans les souris de Serrano, il ne semblait pas qu'il y ait de différence entre les mâles et les femelles au niveau de la survie et de la résistance au cancer induit ou spontané. En ce qui concerne l'incidence du cancer entre l'homme et la femme, je ne peux pas vous répondre. Et peut-être quelqu'un a une réponse. Je ne peux pas vous répondre sur quelles sont les causes qui permettraient de penser que le cancer... On pourrait parler en termes de longévité, sachant que la femme va vivre 10 ans de plus, ça permettrait d'avoir ce décalage sur...
En général, si vous faites la somme de tous les cancers, c'est extrêmement stable. En Inde, ici, en Australie, homme, femme. Mais si vous regardez la distribution... on va trouver les différences. Bien sûr, chez les femmes, le cancer des seins est plus fréquent que chez l'homme. Mais en Australie, c'est le cancer de la peau, etc. Donc, les proportions, les pourcentages des différents cancers varient beaucoup. Mais on ne peut pas éviter le cancer. Quand on fait la somme, il n'y a pas un facteur de deux entre différents pays, différentes géographies et modes de vie. C'est intéressant.
Ouais. On va prendre encore trois questions.
La question, c'est sur les protéines. Combien peut-on absorber de protéines dans la journée? Est-il possible de calculer les protéines au maximum? Alors, un régime alimentaire hyperprotéiné. Alors, vous avez dit, il y a donc la transformation des protéines. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Au sujet des protéines.
Je n'ai pas parlé des protéines comme nourriture. Je parlais des protéines qui font tout le travail, qui font qu'on peut se parler maintenant, manger, respirer, etc. Donc, je parlais de la qualité des protéines, des enzymes qui font tout ce qui est la manifestation de notre vie. Mais de l'autre côté, oui, il existe des protéines... comme nourriture, et surtout dans les cellules, il existe un système sophistiqué qui détecte les protéines malades, oxydées, et qui les dégrade. Donc, il y a un processus permanent de mise à la casse des protéines qui ne sont plus bonnes, et si on a un bon ADN, on va resynthétiser le nouveau protéine tout frais, en pleine forme. Et pendant que tout ça marche, aux poubelles, ce qui n'est pas bon, resynthétiser à partir de bon ADN, pendant que ça marche, on est en pleine forme.
Oui, je voudrais m'adresser à M. le professeur Weil sur une expérience qu'il nous a présentée, et il y a des étapes qui m'ont un peu échappé. Je parle d'une expérience que vous rapportez, je pense, d'un auteur japonais. Vous partez de cellules... somatiques de cellules de la peau, dans lesquelles vous introduisez, j'imagine, une information génétique. Et à un certain moment, vous passez à un stade de cellules non différenciées.
C'est ça.
C'est la même cellule somatique qui...
Exactement. Qui se dédifférencie, qui devient totipotente.
Ah, c'est ça. Et autrement dit, vous ne passez pas par des cellules souches
Exactement.
Au départ.
On n'a pas besoin de prendre les cellules souches du tissu. C'est encore une opération qui n'est pas très efficace, donc il faut le rendement n'est pas très bon. Comme je l'ai dit, il y a 4 gènes qui sont mis de façon transitoire, mais le gène CEMI est un gène dont on sait qu'il peut être inducteur de tumeurs. Donc, pour le moment, ça reste à l'état expérimental. Je sais qu'il y a eu récemment des travaux où on peut mettre 2 gènes, mais c'est une cellule de la peau normale, différenciée, pas souche, qui se dédifférencie en cellule totipotente et qui, après, sous l'induction de certains facteurs, peut donner tous les différents tissus. Donc c'est sur cette cellule dédifférenciée totipotente qu'on peut effectuer la réparation du gène par recombinaison homologue, comme celle dont a parlé Miro, en introduisant un gène sain et en réparant le gène malade. Donc cette manip telle qu'elle a été faite chez la souris est absolument linéaire et parfaite, et on guérit une souris comme ça. Maintenant, il va falloir encore un peu d'avancer. Est-ce que j'ai été clair?
Oui, je vois, oui, je vous remercie pour ces précisions. J'aurais voulu reposer... Non? Ah bon.
Encore deux questions en haut et puis une de moi.
Hein? Oui, bonjour. C'est juste une précision en fait sur les deux dernières diapos de Monsieur Veil, juste pour repréciser, parce que je pense que c'est important d'insister, que la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines est permise en France. Il y a de la recherche actuellement, il y a des équipes qui travaillent.
Oui, on a autorisé sur certaines lignées précises qui ont été... Oui, d'accord. Mais enfin...
Non, ça me paraît important de le dire, d'accord. Parce qu'il faut que les gens le sachent.
Certains labos, sur certaines lignées, ont le droit de le faire.
Ils sont autorisés par l'Agence de la biomédecine.
Oui, vous avez raison. D'accord. Alors, enfin, par rapport à l'Angleterre, par exemple, on est beaucoup moins permissif.
Bon. Ma question maintenant, à chacun d'entre vous, répondez séparément... Comment expliquez-vous que nous vivions très largement au-delà de ce qui est nécessaire ?
Alors ça, il faut se méfier quand un philosophe vous pose une question comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ce qui est nécessaire ?
Comment expliquez-vous que, au-delà du service rendu à l'espèce ?
C'est-à-dire, comment tu expliques qu'il y ait des gens qui vivent plus de 50 ans, en fait ?
Oui, c'est ça.
Il y en a toujours eu, d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu,
oui, mais comment vous l'expliquez du point de vue des stratégies de l'évolution et des,
On peut imaginer que... On peut imaginer que...
Indépendamment du fait que c'est agréable.
Mais... Je te le passe.
Ça va. Ah, t'es vache. Cadeau empoisonné. Mais il y a... les chercheurs décrivent l'effet grand-mère. Qu'est-ce que c'est l'effet grand-mère ? C'est l'effet du génome, en effet, de la grand-mère, du fait qu'elle a 80, 90 ans et s'occupe des petits-enfants, car les parents travaillent et voyagent, etc. Et donc, le fitness, l'adaptabilité, l'instruction, la bonne nourriture, la santé... des petits-enfants dépend du bon génotype de la grand-mère parce qu'elle est vivante à 70, 80 ou 99 ans. Okay? Et c'est le même gene pool. Donc, ce qui a dû rajouter à une pression sélective pour la longévité humaine, c'est d'abord qu'on est né tellement dépendant et tellement longtemps, et si on prend encore les études et le doctorat, c'est 30 ans. Il faut vivre 30 ans après 40, donc au moins 70 ans. Donc j'imagine, oui, à cause qu'il y a une valeur sélective dans le passé de la survie à cause des connaissances, hein, de chasser mieux, de se protéger mieux contre le froid, etc. Bon. Ah, mais
je voudrais dire quelque chose quand même à Yves, c'est que, encore une fois, c'est l'histoire de Mozart. Si on n'avait pas un cerveau, si on n'avait pas cette machine bizarre avec 1 000 milliards de connexions qui est capable de faire les pires et les plus belles choses, on vivrait 40, 45 ans. L'homme à l'état sauvage, comme j'avais dit au début, ne peut pas vivre plus longtemps que l'âge de la reproduction. Évidemment, il y a toujours des exceptions, même dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité. Mais en gros, à la première infection, out. Au suivant.
Bon, on va en rester là avec la perspective d'une 10 milliards d'êtres humains vivant 120 ans. À demain. Merci.